Et maintenant, bah c'est le moment de l'émission où là, je contrôle plus rien. C'est ce qu'on appelle Burn to be alive.
Et comme la nature a horreur du vide, c'est moi qui contrôle tout maintenant. Je vais poser des questions sur l'histoire, Clémentine et Stéphane répondent, et le moins mauvais des deux est sacré meilleur historien du jour. Et le pire peut se consoler en se disant qu'il prendra sa revanche le lendemain. Allez, c'est parti. On est sur une très bonne série.
Ouais, j'espère que la question sur Boris de Bulgarie, c'est pour Stéphane.
Écoutez, je vais vous dire, elle sera pour les deux.
Ah,
comme ça, bon. Pas de jaloux. On va commencer avec celle de Stéphane, justement. Faites une prière, Stéphane. Voici une question histoire des religions. Boris Ier de Bulgarie, souverain du pays du même nom, entre... Je vous ai donné les dates tout à l'heure.
852 et...
889.
C'est un contemporain de Charlemagne, un peu plus âgé, un peu plus après.
Donc, Boris Ier se convertit au christianisme en 864. Avant sa conversion, aussi fou que ça puisse paraître, sa religion était le tantrisme. Vrai ou faux ?
Mais oui, mais parce que les Bogomiles, cette hérésie bulgare, contemporaine des Cathares, tout ça, je crois que ça a quelque chose à voir avec le tantrisme, en effet. Moi, je répondrais oui à cette question.
Vous voulez changer la question ? Si je vous donne la question, je prendrai la vôtre.
Ah bah si vous voulez.
Bah d'accord.
Écoutez, excusez-moi, faites votre petite popote si vous voulez.
Vous, monsieur.
Mais qui commande ce quiz ? Ça se passe pas comme ça ? Non, c'est à vous, Stéphane, voyons.
Eh bien, écoutez, je me fie à l'historienne du studio.
Oui,
je
dirais vous n'allez pas me faire endosser le massacre. Hein.
Vous êtes sûr de vous ?
Moi, ça me dit vraiment
vous
quelque chose.
Vous avez confiance en votre adversaire ?
Je dis que c'est faux.
Vous suivez ?
Non, je ne suis pas Clémentine.
Donc, il y en a un de vous deux qui va en tout cas vous sentir grandi.
Voilà. D'accord. Mais qui ?
Clémentine est le vrai historien ou la vraie historienne ? On écoute la réponse.
Vous avez gagné.
C'est Stéphane.
Alors, d'où était cette
Voilà. Là, vous fanfaronnez moins.
Non, bah oui, c'est vrai. Hein. J'ai honte.
C'était pas le tantrisme, mais le tangrisme.
Voilà. C'est pour ça.
C'est tangris.
Voilà. C'est vrai que quand on est enrhumé, ça se prononce pareil.
Ouais, mais c'est pas cool comme question, franchement. Parce que, vous voyez, les Bogomiles, qui sont vraiment. C'est la racine de l'hérésie cathare. Ce sont des Hongrois, justement. C'est venu de Hongrie.
Ça n'a rien à voir avec les Bulgares.
Et ça avait été influencé. Oui, mais alors, c'est quoi le tangrisme ?
Je vais vous expliquer. Mmh. Puis détendez-vous, c'était même pas votre question. Vous êtes juste ridiculisé toute seule.
Parce que moi, j'ai toutes les questions à cœur, y compris celle de mon adversaire. Voilà tout.
Alors, le tangrisme était la religion des populations turques et mongoles durant l'Antiquité.
Le tangrisme et le
Haut Moyen-Âge. Dans cette religion, le sens de la vie dépend des actions de chaque humain.
Mais bien sûr, c'est pour ça que ça a donné les Bogomiles et les parfaits dans l'hérésie cathare.
C'est que le monde
terrestre n'a pas été créé par Dieu parce que c'est un monde mauvais. C'est ça le principe de l'hérésie bogomile puis cathare et qui vient de Bulgarie et donc le tangrisme et pas le tantrisme. Les auditeurs apprécieront le caractère hautement mesquin de cette question.
Voilà.
Au niveau mesquinerie, vous connaissez. Allez, une question pour vous. On va rester avec Boris Ier.
Oh, voilà autre chose.
Quand il se convertit, il change de prénom Boris. Mais pour quel prénom ? Il passe de Boris à Pascal, Michel, Stéphane ou Jean-Pierre ?
Stéphane.
Vous êtes sûr ?
Michel, c'est en Russie, il y a beaucoup de Michel.
Et en même temps, c'est vrai que lui il est en Bulgarie.
Saint-Michel.
Pour moi, c'est Michel ou Stéphane. Mais en même temps, Stéphane est grec. Et il prend un prénom chrétien. Mais en l'an 800, il n'y a pas encore où en est le christianisme en Russie. Non, écoutez, ça va être Stéphane ou Michel, mais j'avais dit Stéphane en premier.
On prend Stéphane.
Voilà.
Vous avez perdu.
C'est pas votre truc, Boris Ier. Hein.
Non.
Elle a fait l'impasse en cours d'histoire.
C'était Michel.
C'était Michel.
Ah oui. En plus, je vous ai aidé. Michel.
C'est vrai, mais je voulais pas me dédire sous votre influence.
Et c'était un hommage direct au parrain de Boris, l'empereur byzantin Michel III. Une nouvelle question pour Stéphane maintenant. Restons dans la spiritualité.
Ah, tout moi ça.
En 1956, le livre Le Troisième Œil sort. C'est un des livres les plus vendus sur la spiritualité tibétaine. Il a été écrit par le moine Lobsang Rampa. Ce livre a été un gros succès car, quand il était présenté aux journalistes, le moine Lobsang Rampa a fait une démonstration de lévitation à quelques centimètres du sol. Bon, pas de photo, pas de film de cet épisode, mais plein de témoins directs qui ont ensuite raconté cet exploit. Vrai ou faux ?
Le vol yogique, c'est peut-être de ça que s'est inspiré Hergé dans son Tintin au Tibet. On voit les lamas en train de léviter.
Il a lévité.
Il a lévité, oui.
C'est à quelle époque, ça ?
En 1956.
Il a lévité.
Il a décollé.
Ouais.
Il a décollé.
Ah oui, je pense.
On l'a retrouvé au cinquième étage.
On l'a retrouvé, oui. Allez, je vais dire oui.
Vous dites oui.
Vous avez... perdu.
Oh, mais comment ça ?
C'est il faux. Pas lévité.
Non.
Oh, c'est décevant,
c'est décevant.
Ça.
Moi, j'aurais lévité.
Bah, oui, oui.
Mais j'ai plein de choses à vous dire sur l'Obs en crampe pas. Parce qu'il a bien sorti ce livre qui a eu un gros succès en 1956. Mais deux ans plus tard, la supercherie était découverte. L'Obs en crampe pas n'était pas un moine tibétain, mais le fils d'un plombier anglais au chômage.
J'adore.
Il a continué ensuite d'écrire. Ses livres ont été vendus à 15 millions d'exemplaires dans le monde.
Oh, quelle histoire.
Un magnifique escroc. Vous pouvez égaliser.
Oui.
Vous êtes en confiance.
Sauf que là, elle va se planter.
Vous devenez méchant.
Non.
Si,
non,
si quand même.
Lucide.
Si, alors qu'elle essaie de vous aider sur vos questions.
Ouais, je vais l'aider. Je vais vous aider, Clémentine.
Oh, merci. Vous êtes trop bon. Oui.
1928, c'est la naissance de Mickey. Aujourd'hui, ça ne se sait pas trop, mais la célèbre souris fait partie du domaine public. Si vous avez envie de commercialiser un t-shirt avec Mickey, enfin un Mickey dessiné par vous-même, bah, Disney ne peut rien contre vous. Vrai ou faux ?
Alors écoutez, ça m'étonne parce que l'autre jour, vous avez vu cette histoire de... C'est Jean-Paul Gaultier qui a pris la Vénus de Botticelli sur certains de ses t-shirts et les offices à Florence ont fait un véritable scandale. Et je trouvais ça assez choquant parce qu'il me semble que ça devrait être ce chef-d'œuvre de l'art devrait être universel et chacun devrait pouvoir le... Bon, alors est-ce que pour Mickey...
Je ne crois pas qu'il soit tombé dans le domaine public.
Ben non, moi ça me paraît curieux, puis ça ne me paraît pas tellement correspondre à la mentalité américaine. Est-ce que moi, j'ai le droit de dessiner un Mickey sur un t-shirt et de le vendre comme
moi,
ça ?
Moi, je dirais non. Dites ce que vous voulez, mais je dirais non.
Mais... Moi, je pense non, mais je ne vois pas comment le justifier, Stéphane.
Parce ça, c'est que pas grave, je demande juste vrai ou faux.
Non, mais
c'est
vrai, il justifiera lui-même.
C'est faux.
C'est faux.
Vous avez gagné.
Bravo, c'est faux. Mais ça aurait dû être le cas en 84, car la loi en vigueur aux USA lui assurait 56 ans de protection. Disney a ensuite demandé la même loi que la loi européenne. On lui accorde, ça protège Mickey jusqu'en 2003. Grâce à quelques dollars versés à des parlementaires américains, une loi prolonge jusqu'en 2023. Donc peut-être que l'année prochaine, mais c'est pas sûr, on va voir comment ça va se passer.
Oh, je dessine très mal, de toute façon, je ne saurais pas faire un Mickey.
On aurait tellement voulu que vous nous distribuiez des t-shirts faits maison. Une question pour vous départager maintenant. L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. Je suis assez d'accord avec George Sand, même si j'imagine que ça lui fait une belle jambe. Avant d'écrire sous le pseudo de George, elle avait un autre prénom. Ah, visiblement, Stéphane le connaît. Alors, je vous fais des propositions. Était-ce Germain, Jules, Joachim ou Jéroboam ?
Moi, je dirais Jules, parce que son mari s'appelait Jules Sandeau. Elle aurait pris le nom de son mari, ça paraît logique.
J'aurais dit Jules aussi.
Qui a dit Jules en premier ?
Je l'ai dit en même temps.
On a dit en même temps. Hein.
Écoutez,
il va falloir
vous départager. La bonne réponse, c'était Jules Sand. Elle a sorti son roman Rose et Blanche en 1833 sous ce nom, Jules Sand. Jules, parce que son Jules, avant, c'était Jules Sandeau, vous l'avez dit. Georges Sand a choisi ensuite Georges sans S à la fin. Une façon d'angliciser le prénom. C'était à la mode à l'époque.
Ma réponse était quand même vraiment plus complète que celle
c'est
de Stéphane.
C'est-à-dire que vous savez...
Savais que c'était Jules, c'est pour ça que quand il a dit notre prénom, je savais que c'était Jules.
Je vais vous dire la vérité, il y a des règles quand même, ça a été déposé, il y a des huissiers qui vérifient tout ça. En cas d'égalité, si vous répondez en même temps, c'est au niveau ordre alphabétique que ça marche. Berne étant avant que Portier Kaltenbach, c'est donc Stéphane Berne.
Qu'est-ce que c'est vraiment lamentable, parce que là, on était prêts tous les deux, alors que nous sommes des adversaires acharnés.
Mais on veut partager
pas coutume,
la victoire.
Voilà, pour une fois, être contents tous les deux qu'il n'y en ait pas un qui parte extrêmement frustré. Voilà.
Écoutez, Clémentine, vous avez laminé Stéphane avec 8 victoires de suite. Là, c'est sa 4e. Je voudrais voir jusqu'où il va aller dans cette série. Oui. C'est donc une victoire pour Stéphane Bern.
Oh la vache, c'est dégueulasse.
Ouais. Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez, Olivier Poul. C'est nos personnages du jour qui ont fait parler Freud. Après Marie Bonaparte et ses correspondances avec Freud, dont elle s'est faite l'interprète de sa parole, en tout cas en France, je vous raconte Albert Einstein, ou la rencontre entre deux grands esprits dans un échange resté célèbre, Pourquoi la guerre ? Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un acteur qui a fait parler Freud et l'a carrément incarné au cinéma.
Oui, le grand, le beau, le fort Viggo Mortensen qui a redonné vie au père de la psychanalyse devant la caméra du tout aussi grand David Cronenberg.